sur le bout de la langue.
Bienvenue sur la commune de Monteneuf, petit village peuplé d'environ 700 Monténeuviens, connu pour son site mégalithique et ses paysages de landes, riches en diversité. Au cœur des landes de Monteneuf, vous allez emprunter un circuit pédestre d'environ 5 km, balisé par des bornes audio. Tout au long de cette balade originale, nous vous invitons à écouter des témoignages historiques, scientifiques et culturels qui vous racontent les landes de Monteneuf. Ce projet est porté par l'association Les Landes, qui anime régulièrement des initiatives autour de la valorisation du patrimoine. Cette association se donne pour objectif de tisser un lien culturel et environnemental entre les hommes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Elle gère un centre d'accueil et de découverte, le Centre Les Landes, et valorise deux sites majeurs du territoire, le site mégalithique des Pierres Droites et le site naturel des Landes de Monteneuf. Avant de partir sur le bout de la lande, quelques infos sur le fonctionnement du lecteur audio. À chaque fin de témoignage, vous entendrez des bruits de pas. À chaque borne correspond un numéro de piste audio. Exemple, borne numéro 1, piste de lecture numéro 1, et ainsi de suite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne balade et de belles rencontres sur le bout de la lande.
Sur le bout de la lande.
Moi, j'étais pas tous à la ferme du Puy-l'Eau. Toutes les vacances, je gardais les vaches. Parce que c'était que des petites parcelles et tout, il y avait des arbres partout. Il fallait brosser dans les bois, enfin et tout. Maintenant, c'est tout érasé, donc c'est des grandes parcelles. Donc ça pue du tout le même effet. Il y avait 7 fermettes. Alors il y avait de 400 vaches à une dizaine. Bon, à l'époque, c'était déjà une bonne petite ferme. Il devait avoir une quinzaine, même peut-être bien un peu plus. Il y avait même un taureau. Les petites fermettes, s'ils avaient 4-5 vaches, ils amenaient la vache au taureau, donc dans ces fermes où il y avait plus d'importance, disons. T'arrivais le matin avec ton troupeau dans le fond de mes landes, là. La première chose que tu faisais, c'est d'essayer d'entendre s'il y en avait un qui était déjà arrivé avant toi. Ben, t'entendais les voix, et puis on s'appelait. Et puis hop, ah, ça répond. Ah, il est là-bas, lui. Ah, tiens, il s'est mis là aujourd'hui. Ce bessillant, ils arrivaient, mais par un autre côté. Le bessillant, c'était plus ses filles. Ah non, dans les gorges, je devais être tout seul dans le coin, là. Ouais. Ouais. Et beaucoup de filles qui gardaient les vaches. Et notre point de rendez-vous, nous, les patous, ben, c'était là, sur les mégalithes. Quand j'étais tout seul, que je venais en vacances, j'allais couper des fougères et tout ça de la langue, hein, pour les bêtes, pour faire les litières, quand c'est la croûte le matin sur les fameuses pierres en question. Quand je partais, moi, garder mes vaches à 6 ans, je partais avec mon casse-croûte le matin, ma musette et ma petite bouteille de cidre. Et c'est vrai que pour l'époque, donc justement, les landes étaient entretenues. Ben oui, puisqu'on récoltait les parcelles où c'était de la fougère était récoltée pour faire les litières, la lande c'était pareil, la grosse lande était coupée, c'était pour mettre dans le fond. Vous savez, dans les étables, quand on enlevait tout le fumier, la première couche c'était des gros piquants pour que ça tasse, et après on mettait de la bruyère, la fameuse lande beaucoup plus fine. C'était nickel, hein, c'était propre, à part quelques parcelles parce que les gens les entretenaient pas, mais autrement les gens récupéraient, puis le bois c'était pareil. Il y avait du châtaignier, il y avait des sapins. C'était taillé, c'était vraiment entretenu. On chauffait à la cheminée à l'époque. Hein, moi, j'ai connu que la cheminée hein, dans ma maison. Après, il y a eu la cuisinière qui est arrivée dans les années... Oh, des années 60 quand même. Oui, 50-60.
Chaque maîtresse de maison avait un balai en genêt. un ou plusieurs même. Souvent, ben, quand il était usé, elle disait au mari, eh ben, tiens, il va être temps que tu me refais un balai. Hein. Et pour nettoyer les gamelles qui étaient souvent des marmites en fonte, eh ben, pour les brosser et tout, on faisait des petits balais avec du fringon, un petit houx. Et puis autrement, pour nettoyer la cour de la ferme, eh ben, on faisait du balai avec du bouleau. Et il y en avait un quatrième balai qui était fait, lui, avec de l'aubépine. Et celui-là, il servait à balayer les prairies, parce qu'on récupérait la feuille, donc on est prêt. Alors là, celui-là, il ne fallait pas s'y frotter. Hein. Le souvenir que j'ai, moi, c'est d'un personnage. Hein, c'était le petit père Francis, qu'on l'appelait ici. Et lui, sa profession, c'était... il avait travaillé dans les fermes un peu, mais il a fait une grande partie de sa carrière, enfin, là, peut-être bien la moitié, comme Hector Poudland. Alors, Hector Poudland, son outil, c'était les trappes. Tu sais, pour couper la lande. Et ça, il faisait ça pour tous les fermiers, les fermes du coin, là, ici. Hein. Un jour, il coupait pour un, ou une semaine, il coupait pour un, la semaine d'après, il coupait pour l'autre. Il était payé à la javel. La javel, c'était un petit tas de lande, mais il avait tant de la javel. S'il en faisait, en principe, c'était il en faisait un cent. Les paysans, enfin les fermiers, ils lui disaient, tiens, tu vas nous faire un cent de lande. Il savait ce que ça voulait dire, un cent. Ouais. Alors c'était quelqu'un qui il connaissait tous les oiseaux et connaissait tout sur la lande. Toute la flore, la faune. Ah ouais, et puis d'être attentif à tout ça.
Sur le bout de la langue.
Bernard Clément, quel est votre travail, votre engagement pour les Landes?
J'ai commencé en 1973 l'étude de l'écosystème Landes dans le cadre d'un groupe d'études des Landes armoricaines. Alors actuellement, je suis enseignant-chercheur, donc en qualité de maître de conférence à l'Université de Rennes. Maintenant, je m'occupe plus des aspects liés aux zones humides, dans lesquelles les landes sont également incluses, parce qu'il y a aussi des landes humides et des tourbières qui sont en connexion très étroite avec ces milieux. Alors, la lande, ou plutôt les landes, sont des formations végétales, donc qui sont structurées, organisées par une dominance de bruyères et d'agents. Les landes ont globalement deux origines. Une origine, disons, qui a succédé à l'évolution du climat après la dernière glaciation. Et dans les espaces littoraux, notamment de falaises littorales, les contraintes environnementales font que la végétation arbustive, voire arborée, ne peut pas se mettre en place. Et donc, ce qui est stable sur ces falaises, notamment, si on pense à Crozon, au Cap Fréhel, à Groix, Belle-Île, eh bien ce sont des végétations rases, effectivement, et occupées principalement par la lande, mais qui occupent des substrats en général des terres pauvres. C'est ça la caractéristique fondamentale. Donc des terres pauvres soumises à des embruns. Et donc là, on a des landes qu'on peut qualifier de landes primaires, dans notre langage. À l'inverse, pour les zones de landes plus continentales, type Mont d'Arrée, Montagne Noire, Montée Neuf, celles qui vous concernent, là il s'agit souvent d'espaces liés à des défrichements qui ont commencé à l'époque du néolithique, mais qui ont surtout été amplifiés à partir du Moyen-Âge, à partir de la révolution agricole qui s'est déroulée. Et globalement, l'extension maximale des landes, on la situe à peu près à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Depuis, effectivement, il y a une régression qui est opérée par le développement de l'agriculture, des activités humaines notamment. Bizarrement, on pourrait considérer que la lande, c'est un espace où il y a une faible richesse spécifique, c'est-à-dire il y a assez peu d'espèces au sein des communautés, et ça se comprend assez bien compte tenu du caractère lié à ces fortes contraintes, d'humidité, de trophie notamment. Donc ce sont des milieux où il y a peu d'espèces présentes par unité échantillonnée, je dirais, par rapport à une prairie, par rapport à une forêt. Mais par contre, la plupart des espèces qui subsistent sont des espèces à très haute valeur patrimoniale, parce qu'elles sont très adaptées à ces habitats. Et comme ces habitats, par ailleurs, ont fortement régressé en Europe de l'Ouest en général, au cours du dernier siècle, eh bien, de fait, les espèces qui habitent dans ces landes, aussi bien animales que végétales, deviennent, par conséquent, des espèces dites patrimoniales, c'est-à-dire qui deviennent de plus en plus rares sur les territoires. et qui sont strictement inféodés à ces territoires, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la possibilité d'aller migrer dans d'autres habitats. Et donc c'est ça qui constitue la valeur patrimoniale, ce qu'il faut préserver.
Sur le bout de la lande.
Le premier piquet, et on fait pareil de l'autre côté, à peu près un mètre. Tac. On positionne le petit ruban. La photo, parce que quand on va chercher les espèces, on va souvent piétiner la végétation. Donc avant de perturber le milieu, on prend la photo. On a forcément un impact quand on marche, quand on cherche les petites plantes à travers les grosses touffes de Molini. On a une petite loupe notamment pour regarder les caractères floraux, tout ce qui est sépales, pétales, étamines, avec le nombre souvent qui sert à différencier les espèces. Et pour les herbes, c'est la ligule, c'est au niveau de l'insertion des feuilles, il y a une petite membrane transparente et la présence et la forme permettent de différencier les herbacées. Alors ici, j'effectue un suivi sur la grassette du Portugal. Donc la grassette du Portugal, c'est une petite plante toute petite, hein, qui fait à peine 1 cm de haut. Une petite plante carnivore comme la Drosera, donc deux espèces qui sont très rares et qui sont présentes à Monteneuf. Alors il suffit de vous baisser un petit peu. Donc la grassette du Portugal, c'est la petite plante qui a une fleur blanche et qui fait une petite rosace à la base. Et les insectes qui sont piégés à l'intérieur de ses feuilles. Donc ça, c'est une technique afin de parer au manque de nutriments, au sol qui est très pauvre, ce qui est caractéristique des Landes. La mesure de gestion qu'on a effectuée sur ce milieu, c'est un étrépage, ou étorpage comme disent les anciens. Ça consiste à enlever la couche supérieure du sol. Donc la grassette du Portugal est une espèce pionnière, c'est-à-dire qu'elle colonise des milieux ouverts et avec très peu d'espèces végétales. C'est les premières à coloniser justement les sols nus. Donc en 2009, on a décapé le sol. Suite à cela, on a commencé à suivre la grassette du Portugal. En 2009, au sein d'un quadra, on avait 7 individus. Et cette année, on comptabilise 111 individus. Donc on voit très bien que notre action de gestion a un impact très positif sur cette espèce. Et nous allons continuer à suivre cette espèce et à agir sur le milieu afin de la favoriser. Drosera, donc une autre espèce de plante qui est carnivore, donc une petite plante rouge avec des feuilles un peu longues, et donc c'est pareil, elle va capturer des insectes avec un petit mucus donc sur ses feuilles. L'insecte se retrouve collé et va être digéré par la plante, donc il va pouvoir s'en nourrir. Il y a la gentiane pneumonante aussi, une plante avec de très belles fleurs bleues. Donc, qui abrite une espèce de papillon qui est protégé au niveau national. C'est l'azuré des mouillères. Ce papillon pond exclusivement ses œufs sur les fleurs de gentiane. Cet œuf croît par la suite et devient une larve. Et des fourmis vont s'emparer de cette larve pour l'amener dans leur fourmilière. Elles vont nourrir cette larve. Cette larve va croître jusqu'à éclore pour redevenir un papillon, donc à la belle saison.
Sur le bout de la lande.
Cette histoire se passe au temps où les poules avaient des dents.
En ce temps-là, il y avait dans les Landes de Monteneuf des jeunes gens qui gardaient les vaches et les moutons. C'étaient les patous et les patouresses. Surveiller les bêtes n'était pas ce qu'il y avait de plus passionnant dans leur vie. Mais les patous avaient bien de quoi s'occuper. Les garçons éturpaient la lande, ce qui était coupé était mis en tas, qu'on appelait la javelle, et rapporté dans les fermes pour donner aux bêtes. Les filles, elles, emportaient de la laine à filer. Elles avaient une quenouille, c'est un bâton avec une touffe de laine, et un fuseau. C'est un autre bâton avec un crochet en haut pour fixer le fil, et un anneau très lourd en bas, la fusaillole. Elles tiraient des brins de la quenouille, les fixaient au fuseau et les faisaient tourner pour fabriquer le fil. La laine des moutaines, c'est nous qui la filaine. La laine des moutons, c'est nous qui la filons. Filons, filaine, la laine des moutaines. Filons, filons, la laine des moutons. Ce jour-là, Jeannette filait la laine au milieu de ses moutons, qui mangeaient tranquillement la bruyère et la jonc. C'est au moment de les compter qu'elle se rendit compte qu'il lui manquait une brebis. Elle youta donc ses compagnons. Yiii ! Et les appels retentirent dans les Landes. Yeah, yeah, yo! Et tous les patous du coin arrivèrent en lançant chacun leur appel. Tous cherchèrent longtemps la brebis égarée. Mais il fallut bien rentrer avant que la nuit ne tombe et chacun s'en fut chez lui ramener ses brebis. Jeannette ne voulait pas laisser sa pauvre petite toute seule dans les Landes, alors elle retourna pour la chercher. La lune ronde apparut haut dans le ciel. On y voyait comme en plein jour. La petite patouresse était bien lasse. Elle s'assit au pied d'un grand bouleau. Elle dut s'assoupir un moment quand elle entendit qu'on l'appelait. Il n'y avait pourtant personne. « Jeune bergère, n'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. » La jeune fille se retourna et il y avait dans le tronc du bouleau un visage qui se dessinait, celui d'une très belle femme aux yeux verts, à la peau aux couleurs des rayons de la lune. Une chevelure de fines branches lui descendait le long des joues. « Je ne te veux aucun mal, c'est juste que je vous vois depuis si longtemps danser avec vos pieds, que j'aimerais que tu danses pour moi, qui n'en ai pas, juste une fois. » Jeannette, qui aimait bien danser, entama une scottiche. Ratata, ratata. Et au bout d'un moment, elle entendit un énorme craquement, comme si on arrachait quelque chose de la terre. La fée du bouleau avait deux jambes de racines et deux bras de branches. Elle se mit à danser avec la patouresse. Mais quand on danse avec les fées, on danse sur la queue des renards, sur les branches des arbres, sur le haut des nuages, jusqu'à en mourir. Et Jeannette supplia la fée de la laisser se reposer. Alors, on entendit un craquement, comme si on enfonçait quelque chose dans la terre, et la fée du bouleau reprit sa place au milieu des Landes. Avant de retrouver ta brebis qui t'attend tout près d'ici, je t'offre autant de feuilles de mes branches que peut en contenir ton tablier. » La jeune fille remercia de cet étrange présent qui lui servirait à nourrir ses petits agneaux. Et la fée du bouleau disparut dans un souffle. Jeannette se servit comme la belle dame lui avait dit et retrouva sa petite brebis. Quand elle rentra chez elle et qu'elle ouvrit son tablier, devinez ce qu'elle y a trouvé ? Oui, un tas de belles pièces d'or, sonnantes et trébuchantes. Aujourd'hui encore, en souvenir de cette belle nuit, la fée du bouleau se pare d'or à l'automne. Et si vous passez par là une nuit de pleine lune, vous l'entendrez peut-être fredonner. La laine des moutaines, c'est nous qui la tondaine. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Tondons, tondons, la laine des moutaines. Tondons, tondons, la laine des moutons.
Sur le bout de la langue.
Alors, je suis médiatrice du patrimoine archéologique. Mon travail, c'est de faire le lien entre les recherches scientifiques actuelles en archéologie et le public. Alors pour venir à la loge Morinet, il faut emprunter des petits chemins et sur ces petits chemins, vous avez certainement remarqué des affleurements rocheux. Alors qu'est-ce qu'un affleurement rocheux ? C'est en fait de la roche mère ou le substrat géologique. C'est du schiste pourpre. Le schiste pourpre, c'est une roche sédimentaire qui s'est formée il y a vraiment très longtemps, il y a plusieurs centaines de millions d'années, qui s'est formée au début du Cambrien. Alors la couleur rouge, elle est due à du fer contenu à l'intérieur de cette roche et cette roche en fait elle donne des paysages tout à fait remarquables et typiques de la région. Cette roche libère très peu d'éléments favorables à la croissance de nombreux végétaux. Les sols sont donc très pauvres et acides, ce qui permet en fait à la lande de se développer. Par contre, il ne faut pas se tromper, toutes les roches ne sont pas des affleurements naturels. Alors, il existe des affleurements naturels qui sont donc de la roche mère en schiste pourpre et aussi des blocs qui proviennent de cette roche mère mais qui, eux, ont été taillés par les hommes il y a bien longtemps, les hommes de la préhistoire. Alors, pour faire la différence, il faut avoir un œil un petit peu aiguisé. Le schiste a la particularité de ressembler à un millefeuille. Il faut regarder donc les feuilles de ce millefeuille. Si les feuilles sont inclinées vers le haut, suivant un angle de 85 degrés et orienté est-ouest, on peut dire qu'il s'agit d'un affleurement naturel. Par contre, si les feuilles ont une orientation différente, c'est-à-dire qu'elles sont parallèles au sol ou qu'elles sont perpendiculaires au sol, on est certain qu'il s'agit de blocs taillés par les hommes. Les allées couvertes sont en fait des sépultures mégalithiques. Ce sont donc des lieux où on enterre les morts et qui peuvent servir plusieurs fois. Donc à l'intérieur, on retrouve différents corps, différentes inhumations et on peut parfois retrouver plus d'une dizaine de corps à l'intérieur de ces sépultures. Les allées couvertes, comme ici celle de la loge Morinet, mais également les files de menhir présentes à Monteneuf, appartiennent à un grand courant architectural qui date de la préhistoire et qui s'appelle le mégalithisme. Des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour des files de menhir. Le plus grand d'entre eux mesure 5 mètres pour 38 tonnes. En fait, il s'agit à l'heure actuelle du site des Pierres Droites.
Sur le bout de la langue.
On était des petits patous. Ben on allait garder les vaches dans les prés, mais les prés c'était des petits prés à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de remembrement. Et puis là, bon, on se retrouvait, les villages d'en dessous, le village d'en dessus, tout le monde se retrouvait dans les prés, et on faisait des jeux, les gars, ils faisaient des cabanes. on faisait des cabanes dans les saules. Ou alors, je me souviens aussi, on avait fait un petit four avec de la terre glaise. La terre, comme c'est des terres assez argileux, on avait récupéré la terre jaune et puis maçonné le petit four. Et puis on pouvait mettre des pommes à cuire dedans. On pouvait faire ça qu'à partir du mois de septembre. Les pommes, on les prenait dans les champs à côté ou dans les pommiers les plus près. On allait les chercher. Alors la pétouère, c'était fait avec du sureau. On coupait un morceau de sureau de 5-6 cm de diamètre à peu près, et puis on les vidait. Et puis après, on faisait un poussoir avec une branche de saule qu'on taillait aussi. Puis il fallait ajuster le piston. Et là, on y mettait de la filasse. Alors ça, c'est de la fibre de chanvre qu'on arrivait, je sais pas où on se procurait ça, mais enfin bon, il y en avait un peu partout sans doute. Et avec ça, on la mâchait, on la mettait bien, bien humide, et puis on faisait des petites boulettes qu'on bourrait dedans. Et puis en faisant la compression, alors là, ça pétait comme un coup de fusil. Je me souviens, il y avait un endroit où j'allais quelquefois garder les vaches, un peu plus loin là. Souvent on allait là le dimanche. Et puis on avait fait un circuit de vélo déjà à l'époque dans ma bourg. C'était l'avant-garde des VTT. Hein. Et là, il y avait comme un peu des courses de vélo dans le bois en fait. Le ruisseau, c'était quand même un endroit intéressant pour les jeux, puisqu'il y avait il y a la pêche. Il y a aussi les petits bateaux avec des écorces d'arbres ou avec des morceaux de bois, qu'on taillait au couteau un petit peu. Enfin, le petit moulin, on faisait des roues avec un morceau de bois, et on faisait des pales. Et puis on mettait ça sur l'eau et avec des piliers dans chaque côté. Et hop, la roue tournait. Il manquait plus que la poulie et la courroie pour entraîner la meule. On n'en était pas encore rendu là. Tous les éléments qui nous entouraient nous permettaient de pouvoir passer du bon temps quelque part. Et c'était un apprentissage de la nature. C'est comme ça qu'on commence. Aujourd'hui, je pense que peu de jeunes ont cette chance-là. Ça faisait partie aussi des moments de détente, si on peut dire, ou des activités du petit Poitou, entre autres de garder les vaches.
Sur le bout de la langue.
Il est 10h30, ce n'est pas sans la langue, le petit bois, pas sans la langue, le petit bois.
Il est 10h30, ce n'est pas sans la langue, le petit bois, pas sans la langue, le petit bois.
La langue est grande, marchons ensemble, pas sans la langue, le petit bois, mignonne ensemble.
La langue est grande, marchons ensemble, pas sans la langue, le petit bois, mignonne ensemble.
Il est 9h30, ce n'est pas sans la langue, le petit bois, pas sans la langue, le petit bois.
Les 9h30, ce n'est pas sans la langue, le petit bois, pas sans la langue, le petit bois.
La langue est grande, marchons ensemble, pas sans la langue, le petit bois, mignonne ensemble.
La langue est grande, marchons ensemble, pas sans la langue, le petit bois, mignonne ensemble.
Il est 8h30, ce n'est pas sans la langue, le petit bois, pas sans la langue, le petit bois.
Il est 8h30, ce n'est pas sans la langue, le petit bois, pas sans la langue, le petit bois.
La langue est grande. Marchons ensemble, passons la langue, le petit bois, mignonne ensemble.
La langue des grandes, marchons ensemble, passons la lande des petits bois mignons ensemble.
La lande des grandes, marchons ensemble, passons la lande des petits bois mignons ensemble.
La lande des grandes, marchons ensemble, passons la lande des petits bois mignons ensemble.
Ces gens sont en route. Ils vont au champ, au bourg, aux noces, sur la lande, et assemblés éventiers. Qui sait ? Et qu'importe ? Chaque centimètre carré de ces chemins a été foulé par des femmes et des hommes que ce bout de terre a porté. Ici, en pays gallo, on avance avec vivacité, mais le rythme naturel de la marche exacerbe la conscience du milieu. Et sur ces terres hostiles et hospitalières à la fois, hommes et nature ne font qu'un. Sur ces chemins, sur ces sentes, la symbiose est la loi, et le rossignol devient le facteur des amoureux. Ici, en Haute-Bretagne, le chant est une respiration. Indissociable l'un de l'autre, on chante la vie, on vit le chant. Mélancolique ou enjoué, moralisateur ou iconoclaste, de labeur ou de repos, ces chants reflètent un mode de vie adapté au biotope. Ils cristallisent l'indéniable lien entre nature, homme et culture. Cette alliance se ressent jusqu'au plus profond de la pensée. Et lorsqu'ici on s'exprime, le galop s'anime des odeurs de la lande, des couleurs des talus et du goût de la terre. Et parce que le galop est le latin venu à pied du fond des âges, nos paroles ne sont pas d'eau, elles ne s'évaporent pas au soleil. Nos paroles sont d'huile, elles s'imprègnent en nous et laissent des traces que le temps n'efface pas. Elle a pourtant souffert notre belle langue d'oil et menace encore de disparaître, mais fidèle à son terroir, elle se dresse et résiste. Quelle que soit l'intempérie.
C'est en 10 ans, y a-t-il du fin dans les ratiaux? C'est en 10 ans, y a-t-il du fin dans les ratiaux?
C'est en 10 ans, y a-t-il du fin dans les ratiaux? C'est en 10 ans, y a-t-il du fin dans les ratiaux?
Y a-t-il du fin dans les ratiaux? Va ici des zones, va ici des zones. Y a-t-il du fin dans les ratiaux? Va ici des zones, Chine en fao.
Y a-t-il du fin dans les ratiaux? Va ici des zones, va ici des zones. Y a-t-il du fin dans les ratiaux? Va ici des zones, Chine en fao.
Écoutez-les chanter. Ici, on ne fait pas la différence entre diversité biologique et diversité culturelle. Aujourd'hui, les 400 000 locuteurs du galop répartis à l'est d'une ligne ondulant de Saint-Brieuc à Vannes sont les porteurs d'une indéniable richesse linguistique. Depuis 2004, le galop est officiellement reconnu, au même titre que le breton, comme langue historique de Bretagne.
Sur le bout de la langue.
Ici, on est sur un milieu lande. C'est-à-dire un milieu qui a été façonné par l'homme. L'homme y puisait de quoi se nourrir, de quoi aller faire paître ses bêtes. Puis, petit à petit, il a abandonné ce milieu pour des terres plus riches. Et c'est donc devenu autre chose. Les arbustes comme la bourdaine s'est mise à pousser, et les arbres aussi, à coloniser ce milieu, les pins, les saules. Donc notre rôle à nous, les gestionnaires d'espaces naturels, c'est d'aider ce milieu à retrouver un équilibre entre ce qu'il était autrefois, un milieu très ouvert où la biodiversité était importante, et ce qu'il est devenu aujourd'hui, un milieu fermé où la biodiversité a fortement diminué. Nous n'agissons pas au hasard. Toutes les actions que nous menons sont planifiées, inscrites dans un document cadre qui s'appelle le plan de gestion, qui est renouvelé tous les 5 ans, après une évaluation, par les suivis scientifiques de faune et de flore. Plus un milieu va présenter des stades de végétation différents, plus il y aura d'espèces animales qui trouveront de quoi vivre dessus. Ici, il n'y a que des pins et des fougères, le nombre d'espèces va être diminué. Donc, en recréant des éclaircies dans les bois, en faisant de la restauration de mares, en faisant de la fauche tardive sur les prairies ou en faisant de l'étropage sur certains secteurs, on va permettre à des espèces animales et végétales de se développer. Et on va ainsi, à nouveau, augmenter la biodiversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces présentes sur les landes de Monteneuve. Je sais, biodiversité, on en parle tout le temps, qu'est-ce que c'est ? C'est pas un gros mot, c'est juste le condensé de biologie et de diversité, c'est-à-dire tout ce qui vit sur la Terre. Ah ! En fait, ça constitue notre assurance-vie, puisqu'elle fait partie des richesses naturelles, où l'homme a toujours puisé pour se nourrir, se loger, se soigner, progresser, évoluer. Malheureusement, il exploite plus qu'il gère la ressource, et donc de nombreux déséquilibres s'installent. Pour prendre un exemple concret, le lézard vivipare est strictement inféodé à ce milieu, c'est-à-dire qu'il ne vit que dans les landes. Il présente la particularité de geler pendant les périodes les plus froides de l'hiver, et surtout de pouvoir continuer à vivre malgré tout. Cette capacité exceptionnelle est due à la sécrétion d'une molécule particulière qui pourrait avoir des applications très concrètes en médecine, dans les transplantations d'organes par exemple. Depuis la nuit des temps, les plantes ont été étudiées et ont donné naissance à de nombreux médicaments. Voilà une application concrète de la biodiversité.
Sur le bout de la langue.
Hey, tu entends? Les rainettes sont en activité ce soir.
À noter. Alors attends. Une, deux, trois larves de salamandre.
Ouais.
Ah, il y a un triton là.
Tous les ans, entre mars et juin, nous allons à la rencontre des amphibiens pendant leur période de reproduction et nous effectuons un comptage pour évaluer l'état de santé des populations. Ils sont très menacés par la destruction de leur habitat et notamment les zones humides, l'arasement des talus, les haies où ils passent l'hiver. La famille des amphibiens rassemble les grenouilles, les crapauds, les tritons et les salamandres. Le terme amphibien signifie double vie. Souvent, on croit qu'ils vivent tout le temps dans l'eau. Ben non. La plupart du temps, ils sont en phase terrestre. Mais ils ont impérativement besoin d'eau pour se reproduire à un moment de l'année. Sur l'étang de Kéon, on dénombre tous les ans beaucoup de pontes de crapauds communs. Mais c'est surtout autour, dans les mares et les fossés, que l'on rencontre le plus grand nombre d'espèces. En France, il y a 32 espèces différentes qui sont toutes sans exception protégées. Ici, sur les Landes de Monteneuve, on peut dénombrer 7 espèces. La salamandre tachetée, le crapaud commun, la grenouille agile, la rainette arboricole, qu'on peut distinguer ce soir parce qu'elle a un chant qu'elle émet en haut d'un arbuste. La grenouille verte, le triton marbré et le triton palmé.
Et alors celui-ci, dans l'épuisette, il s'agit du triton palmé, le plus petit triton de France. Il dépasse guère les 7 cm. Alors en fait, on l'identifie avec sa gorge de couleur claire et unie. Et chez le mâle, justement, on distingue des palmures entre ses orteils. Et en période de reproduction, il développe aussi un filament caudal au bout de sa queue. Alors les nuits, en fait, à partir de mai, cela nous permet également de contacter une espèce très discrète le jour, mais étonnante la nuit, en fait, pour son chant qui est très particulier. Alors là, il ne s'agit pas d'un crapaud, mais de l'engoulevent d'Europe. Alors c'est un oiseau migrateur qui vient d'Afrique et qui se reproduit dans les milieux ouverts, comme les landes, où il dépose ses œufs à même le sol. Alors c'est un oiseau qui est insectivore, il est spécialisé sur les papillons de nuit et les coléoptères. Et une croyance populaire, en fait, lui a valu le surnom de trayeur de chèvres ou tête chèvre. D'où son nom latin Capri mulgus, Capri la chèvre, mulgus le lait. Alors pourquoi ? Bien parce qu'en fait l'engoulevent il apprécie les prairies où se trouvent les bêtes qui pâturent pour chasser et qu'il possède un bec en fait démesuré lorsqu'il ouvre très grand pour avaler ses proies. Du coup beaucoup d'histoires se sont greffées autour de cet animal aux mœurs nocturnes.
Sur le bout de la langue.
J'ai une passion pour la nature depuis longtemps déjà. Quand j'étais déjà gamin, j'adorais les oiseaux. J'ai fait partie d'un club mycologique, c'est une amicale mycologique lors de mon passage dans les Pyrénées et j'ai toujours eu besoin de la nature pour m'épanouir. Et puis quand je suis rentré en contact avec l'apiculture, ça a été vraiment une révélation parce que ça nous replonge dans le cycle des floraisons, ça nous replonge dans le cycle des saisons. Et en suivant nos abeilles, on suit tout ce qui se passe autour parce qu'elles sont présentes partout dans la nature au moment où elle est en fleurs. Leur premier rôle, je dirais que c'est de survivre, hein, comme à chacun d'entre nous. Et ce qu'elles apportent à l'environnement, c'est qu'elles pollinisent 80% des plantes à fleurs. Et si ces végétaux n'avaient pas les abeilles pour se reproduire, c'est comme toute espèce qui n'arrive plus à se reproduire, c'est la fin. Elles maintiennent la vie des végétaux, des plantes à fleurs, 80% des plantes à fleurs. Et ben, les végétaux, c'est à la base de l'alimentation de tous, quoi. On dit... quand on mange, en fait, il y a une cuillère sur trois qu'on doit à l'abeille. J'habite pas loin des Landes de Monteneuf. C'est un coin qui est très naturel, qui est très préservé. Il y a une nature sauvage et une flore spontanée. Il y a beaucoup de variétés de végétaux qui sont intéressants pour les abeilles. Je pense au châtaignier, qui est quand même très présent. Je pense à la bourdaine, qui est un petit arbrisseau, qui paye pas de mine, qui fait une fleur qui est toute petite et qui est très attractive pour les abeilles. Son miel est aussi assez réputé. Il y a de la bruyère. Encore que pour faire du miel de bruyère, il faut des bonnes conditions d'humidité, parce qu'elle produit du nectar uniquement si l'air est assez humide. Il y a la ronce, évidemment, qui est très présente. Et globalement, elle trouve aussi beaucoup de ressources sur des floraisons un peu moins importante en quantité, mais des floraisons régulières tout au long de la saison où elle en a besoin, quoi. Sur le miel de printemps, par exemple, où le nectar, la mielée principale se fait sur le colza, c'est un apport brusque d'une grande quantité de nourriture, et après il n'y a plus rien, en fait. Il y a des secteurs en France où il n'y a que des espaces de culture comme ça intensive, et elles ont un brusque apport, une miel est très forte, et après la floraison elles se retrouvent des fois sans rien à attendre la prochaine grosse floraison. L'abeille a beaucoup de problèmes aujourd'hui, beaucoup dû aux nouvelles pratiques agricoles. Alors ça recoupe l'usage évidemment des pesticides, mais aussi le remembrement, parce que quand on fait sauter une haie, on fait sauter des ressources pour les insectes pollinisateurs notamment, pour les oiseaux aussi d'ailleurs. On a aussi l'arrivée d'un parasite au début des années 80, le varroa, qui parasite l'abeille. Malgré tout ça, même si on sait qu'il y a des difficultés, on est quand même motivé, optimiste, pessimiste. S'il y a la passion à là, de toute façon, on agit, quoi. C'est un métier passion.
J'espère que vous avez passé un agréable moment sur le bout de la lande. Il est temps de vous dire au revoir et de remercier les intervenants qui vous ont fait partager ce moment.
Cette histoire se passe au temps où les poules avaient des dents.
On était des petits patous. Petits patous, et ben on allait garder les vaches.
Et notre point de rendez-vous, nous, les patous, ben c'était là, sur les mégalithes.
Les landes de Monteneuve présentent une grande richesse en ce qui concerne le patrimoine mégalithique.
Nature, homme et culture.
Les landes sont des formations végétales structurées, organisées par une dominance de bruyères et d'ajoncs.
Le Monteneuf, c'est un coin qui est très préservé. Il y a beaucoup de variétés de végétaux qui sont intéressants pour les abeilles.
La gentiane, c'est une plante qui a de magnifiques fleurs bleues et elle est intimement liée avec un papillon qui s'appelle l'azuré des mouillères.
L'engoulevent d'Europe. Alors c'est un oiseau migrateur qui se reproduit dans les milieux ouverts, comme les landes, où il dépose ses œufs à même le sol.
Notre rôle à nous, c'est d'aider ce milieu à retrouver un équilibre et on va ainsi augmenter la biodiversité présente sur les landes de Monteneuve.
À bientôt. Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un contrat nature avec la participation du Conseil régional de Bretagne, du Conseil général du Morbihan et de la communauté de communes du Pays de Guerre. Conception, l'association Les Landes, en partenariat avec la radio Plume FM.